Même si c'est vrai que la parole de Dieu nous apprend à prier. Nous avons beaucoup de choses à apprendre tout au long de notre vie au sujet de la prière. La Bible regorge de principes et de prières qui sont très édifiantes et très instructives. Mais il faut absolument commencer. Et on a vu que c'était ce réflexe. Et on a vu différents cas de figure dans lesquels des hommes et des femmes dans la parole de Dieu ont eu ce réflexe de recourir à la prière. C'est ce que dit David dans le psaume 109, dans son contexte de persécution. Il dit « Moi, je recours à la prière ». Et il y a des tas de choses qu'il avait délaissées pour pouvoir se consacrer à ça. « Je recours à la prière ». Et on avait vu ce grand principe dans nos vies avec des exemples dans la parole où, pour avoir fait de la prière leur premier recours, certains ont été bénis. D'autres, ayant fait de la prière malheureusement leur dernier secours, ont occasionné bien des douleurs, des tourments, ont compliqué les choses. Et nous avons vu ensemble que de façon générale, on y gagne toujours à faire de la prière notre premier recours. Amen. Et peu importe, même si on a encore beaucoup à apprendre dans la prière, même si par moments on ne sait pas trop, on s'inquiète, les mots, comment ça va sortir. Mon frère, ma sœur, il faut que ça sorte. Il va falloir que tu pries. Je vous montrerai aussi que dans la pensée de Dieu, sauf exception, la prière est toujours de la prière à voix haute, même quand on est seul. Je vous montrerai tout ça. Et c'est très important. On connaît ce proverbe, celui-là, il n'est pas dans la Bible. On dit toujours que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Si à un moment, on n'y va pas et qu'on ne se jette pas à l'eau, je ne sais pas comment on apprend à nager. Si vous ne montez pas sur votre vélo, je ne sais pas. Bon, j'arrête, vous avez compris. Parce qu'on peut en faire des allégories comme ça. Mais vous comprenez bien que, oui, il faut absolument prendre cette position et dire « Seigneur, j'y vais avec toi, je commence, ça va sortir comme ça va sortir, mais il faut que ça sorte. Je veux faire de la prière, bien sûr, bien plus qu'un recours de temps en temps, on veut en faire un principe de vie. On comprend que les disciples, voyant l'efficacité de Jésus, ils avaient capté qu'il y avait un lien étroit entre l'intimité que Jésus nourrissait avec le Père, ces moments où Jésus était seul dans un désert, tard le soir, tôt le matin, parfois la nuit, à différents moments de la journée. Dans ces moments-là, les disciples n'étaient pas avec Jésus, ils n'avaient pas accès. Mais ils avaient compris qu'il y avait un lien étroit entre ce que Jésus vivait dans ces moments-là, dont ils n'étaient pas témoins et qu'ils ne vivaient pas encore eux-mêmes, et l'efficacité publique de son ministère public, l'efficacité de ce qu'il disait et de ce qu'il vivait. Et c'est ce qui les a amenés à faire cette prière pleine de bon sens. « Seigneur, enseigne-nous à prier ». Alors on a beaucoup, beaucoup de facettes à voir, peu importe l'ordre dans lequel je les aborde. De toute façon, il y a beaucoup de choses à voir ensemble. Pour ce soir, j'ai vraiment à cœur de partager avec vous ce point. Prier, c'est une façon de se décharger. Et on lit ensemble dans la première épître de Pierre, s'il vous plaît, vous avez la référence ici. Première épître de Pierre, on va creuser ensemble le texte. Vous allez voir que ce que l'apôtre Pierre a dit ici en quelques mots est très profond et ça mérite de s'y arrêter. On ne fait pas de la lecture kilométrique, on creuse, on étudie, on approfondit, on va au fond des choses. Premier épître de Pierre, les versets au chapitre 5, pardon, comme vous le voyez, on peut prendre non seulement le verset 7, mais également le verset 8, parce qu'il y a un lien étroit dans la pensée de Pierre sur ces deux versets. Bien sûr, juste avant, il présente ce grand principe qui est l'humilité. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et après avoir dit cela, au verset 7, il dit « Déchargez-vous sur lui, c'est-à-dire sur Jésus lui-même, sur Dieu lui-même, sur Jésus, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Amen. » Ici, ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'il y a dans la parole de Dieu une multitude de références sur ce grand domaine, soucis, inquiétudes, peurs, angoisses, tourment, etc. Mettez l'adjectif, le synonyme que vous voulez. Mais ici, le mot souci, merimna en grec, qui a été traduit par souci, en réalité va beaucoup plus loin dans la pensée. Ça va vraiment jusqu'à de l'anxiété. Parce que le souci, l'inquiétude, l'anxiété, l'angoisse, la peur, ce sont des étapes. De la même façon qu'on a des étapes de vie et de progression dans la joie de Dieu, dans la paix de Dieu, il y a aussi... Malheureusement, c'est une arme de l'ennemi. Le Seigneur a ses principes, le diable a aussi ses armes et ses principes. L'inquiétude, le souci se transforme lorsqu'il n'est pas déchargé au pied du Seigneur, se transforme en anxiété, se transforme en stress, se transforme en angoisse. Et puis, on peut avoir de véritables phobies. Parce que tout ça, c'est en réalité un même package. Et cette anxiété, vous savez très bien que c'est ce sentiment envahissant quand on a la boule au ventre, quand on a la gorge nouée, quand il y a des pensées, des situations qui sont là, qui nous oppressent, qui sont à l'intérieur, on n'arrive pas à s'en décrocher. C'est un sentiment envahissant, c'est un fardeau, un poids sur l'âme qui étouffe. Jésus dit bien dans Matthieu 13, 22, étouffé par les soucis. La semence a été déposée, mais là, il a commencé à y avoir des épines. Et ces épines ont étouffé. Et ce qui a étouffé la semence, ce sont les soucis. Et bien aimé, non seulement la parole de Dieu, elle a été semée dans notre cœur au moment de notre conversion avant, et on a compris, on s'est tourné vers le Seigneur, mais la parole, la semence, elle est en nous. Et si bien souvent nous ne vivons pas les dimensions, nous ne comprenons pas, nous ne nous épanouissons pas davantage dans la parole, dans la prière, dans la vie en général, dans la qualité de vie que Dieu a en réserve pour nous, en réalité c'est parce qu'il y a de l'asphyxie spirituelle. Étouffé par, vous mettez ce que vous voulez derrière. Et c'est la même racine, merimnao en grec, que le mot inquiétude que vous trouvez dans Luc 10. Vous savez ce fameux récit de Marthe et Marie, quand Marthe, qui est bien gentille mais qui est toujours en train de s'agiter, Marthe elle est très gentille mais elle n'existe qu'au travers de ce qu'elle fait. Mais il n'y a pas de gens comme ça bien sûr. Elle n'existe qu'au travers de ce qu'elle fait. Et comme elle est inquiète et elle est agitée, le Seigneur lui dit, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Et puis, elle a Marie qui est là et puis qui est en train d'écouter ce que le Seigneur dit parce que Marie, elle sait, et ça c'est le plus gros problème de beaucoup de chrétiens, savoir ne rien faire. Ça c'est horrible. Savoir se taire, savoir écouter, savoir attendre. Savoir patienter. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les gens qui sont paisibles, franchement, ils ne sont pas un peu énervants. Les gens qui ne s'inquiètent pas, c'est énervant, c'est agace. Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas que ma sœur me laisse... Dis-lui donc de m'aider. Les disciples dans la tempête, Maître, Maître, réveille-toi. Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ? Les gens qui sont calmes, ça énerve les gens inquiets. Et quand le Seigneur lui dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, ici c'est merimnao, et littéralement le Seigneur lui dit, tu es suroccupé, tu t'inquiètes, c'est-à-dire tu es étouffé, littéralement la pensée c'est, tu es étouffé par la somme de tes inquiétudes. Oui, je suis dans ta maison, oui, je suis là, oui, tu es en train de faire quelque chose pour moi. Le problème, ce que Jésus discerne, c'est l'état de son âme, et malgré toutes les bonnes choses que tu entreprends pour moi, entre parenthèses, chose que Jésus ne lui avait jamais demandé de faire, mais elle le fait, parce qu'elle, elle est convaincue que c'est comme ça, c'est bien. Donc, elle fait ce qu'elle estime être bien. Et le Seigneur lui montre que premièrement, ben, il ne lui a jamais demandé de faire ça, et que deuxièmement, derrière toute sa bonne volonté, ce qu'elle fait, elle le fait bien. Le problème, c'est que son âme est étouffée par toute une montagne, et littéralement, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu es étouffée par la somme de tes inquiétudes. C'est une puissance de l'ennemi, j'ai mis qui nous étouffe, qui nous engloutit. Quand Pierre dit, soyez sobre, on va voir ce que ça veut dire, soyez sobre, hein. C'est pas par rapport au vin, hein. Même s'il faut faire attention, on est d'accord. Mais quand Pierre dit, soyez sobre, veillez, votre adversaire, le diable, rôde, cherchant qui il va dévorer, littéralement, là, dans l'original grec, c'est vraiment qui est-ce qu'il va réussir à engloutir. vous ne vous sentez pas par moment happé par des sentiments, par des pensées, par des inquiétudes? Le diable nous avale comme ça, nous accable comme ça. Comment est-ce que le diable peut faire pour croquer du chrétien? Excusez-moi l'expression. Il n'a aucun pouvoir. La Bible est claire. Vous n'êtes plus sous la loi, vous êtes sous la grâce. Donc le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. Le diable est lié, dit Jude, dans une chaîne éternelle. Les démons sont liés à tous ceux qui vivent une vie nouvelle par la nouvelle naissance. L'obéissance, j'insiste, quand on n'obéit pas, on donne du pouvoir à l'ennemi. Mais quand on se maintient dans la consécration, dans la piété, dans l'obéissance, etc., etc., le diable ne peut rien, absolument rien contre les enfants de Dieu. Le seul pouvoir qu'il a, c'est celui qu'on veut bien lui donner quand on écoute ses mensonges, quand on n'est pas dans les sentiers de la justice, je vous en parlerai bientôt, c'est-à-dire quand on est mal positionné par rapport au principe de la parole de Dieu, là, et puis par l'intermédiaire du souci. Quand on écoute ces mensonges et quand on a du souci, de l'inquiétude, des angoisses, de l'anxiété, des tourments, tout ça dans notre âme, c'est comme ça qu'il nous engloutit, c'est comme ça qu'il arrive à nous faire dérailler, à nous faire taire, à nous clouer le bec, à bousiller notre qualité de vie, parfois même jusqu'à la joie du salut. J'ai perdu la main, image suivante, merci beaucoup. Voilà pourquoi c'est si important, parce que c'est une puissance de l'ennemi, voilà pourquoi systématiquement dans la parole, c'est toujours un impératif. Matthieu, ça va venir, Matthieu au chapitre 6, versets 25, 27, 28, vous savez, tout ce sermon de Jésus sur les béatitudes, le Seigneur dit, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas au sujet du lendemain. Qui de vous peut rajouter une seule coudée à sa vie par ses inquiétudes? Bien au contraire, je vais même vous montrer comment votre vie, vous pouvez la raccourcir. Parce que le souci nous fait vraiment du tort. Si ça ne s'affiche pas, ce n'est pas grave, vous suivez quand même, c'est très simple. Ne vous inquiétez pas au sujet du lendemain. Les choses matérielles, les situations, les gens, les uns, les autres, ne vous inquiétez pas. Paul aux Philippiens dit, ne vous inquiétez de rien. Je vous en parlerai la semaine prochaine. Mais en toute chose, faites connaître à Dieu, par vos prières, tous vos besoins. Et la paix de Christ qui surpasse toute intelligence, la paix de Jésus, qui surpasse toute compréhension humaine, va garder vos cœurs et vos pensées. Et en réalité, ici, c'est encore la même chose. C'est un impératif. Déchargez-vous dans la pensée. C'est bloqué? Ça ne m'arrange pas parce que je voulais vraiment... Ah, merci. Dans la pensée, c'est très important. Déchargez-vous. Pierre ici va beaucoup plus loin dans ce qu'il dit, dans la pensée qu'il est en train de donner. C'est une pensée très forte qui désigne l'action de jeter, littéralement jeter sur quelqu'un. Pierre ici dit, lorsque vous avez une inquiétude qui vient frapper à votre porte, ne la laissez pas s'installer, vous la jetez sur Jésus, vous le prenez. Je la refuse, je jette ça, je la refuse, je n'en veux pas. Il y a une peur qui vient frapper, il y a une angoisse, il y a une inquiétude, il y a un souci légitime, humainement parlant, sur n'importe quel sujet. Pierre te dit, quand ça vient frapper à la porte de ton cœur, tu le jettes sur Jésus. Parce qu'à la croix, il n'a pas seulement porté tes péchés, il n'a pas seulement pris tes maladies, il a tout pris. Amen. Il a tout pris. Accompli. Donc, tu le jettes sur Jésus. Pourquoi? Parce que c'est la santé de ton âme, en réalité, qui est ici, qui est en jeu. C'est ta qualité de vie qui est en jeu. La volonté de Dieu, mes bien-aimés, c'est que nous soyons dans la paix. Une âme paisible, une âme libre, une âme sereine, une âme confiante, une âme tranquille, et dans la pensée de Dieu, je ne vais pas Comme je vous l'ai dit dimanche, je ne vais pas vivre des inquiétudes, des tourments, des soucis avec de temps en temps. Merci Seigneur, j'ai eu un moment dans ta présence chez moi. Merci Seigneur, il y a eu une bonne prédication. Merci Seigneur pour le culte de dimanche. Et puis ça m'a fait du bien. Et puis ben, je vis des moments de réconfort, mais en réalité après, la pensée de Dieu, elle est inverse. C'est que ton âme, elle soit toujours libre, sereine, tranquille, paisible, confiante. Et seulement de temps en temps, il peut y avoir une inquiétude qui arrive, il peut y avoir un souci parce que je suis chrétien, j'ai le cœur dans le ciel est dans mon cœur, on est d'accord, dans le vôtre aussi, mais vos pieds comme les miens, je crois qu'ils sont bien sur la terre. Donc il peut y avoir des vagues qui arrivent, il peut y avoir effectivement des moments d'inquiétude, de soucis légitimes qui viennent et qui frappent à la porte de mon cœur. Mais quand ça arrive, l'apôtre Pierre dit, quand quelque chose comme ça t'arrive, tout de suite, tu le jettes sur Jésus. C'est hors de question. La volonté de Dieu, c'est que tu ne portes rien. Même ton fils, même ta fille, même ce qu'il y a de plus près. Non, tu ne le portes pas, c'est trop lourd pour ton âme. Tu es une brebis, ton âme ne peut pas gérer ces choses-là. Ce qui t'accapare, tu le jettes sur Jésus, parce que sinon tu es en danger d'asphyxie. Ça va ? La seule inquiétude, je vous ai mis ça ici, donc je vous ai mis, c'est la qualité de notre vie, de notre âme qui est en jeu. La seule inquiétude, mais j'ai mis des guillemets, hein, parce que celle-là, elle n'est pas destructrice. Mais sacré Seigneur quand même. La seule inquiétude que Dieu te permet d'avoir, ce serait d'avoir une inquiétude, c'est-à-dire de te mettre en peine pour tes frères et sœurs. Et ce qui est intéressant, c'est le seul cas. L'apôtre Paul dit, 1 Corinthiens 12, quand il fait cet exposé justement sur la beauté du corps, sur le côté miraculeux de ce corps qu'est l'Église, constitué de différents membres, avec des fonctions différentes, mais tous soumis les uns aux autres, parfaitement coordonnés à leur place, pour que le corps soit vraiment l'expression de l'amour et du cœur de Jésus. Et là, à ce moment-là, il dit qu'il n'y ait donc pas de division dans le corps, mais que les membres aient soin. Et quand il dit soin, il dit merimnao, il dit que les membres s'inquiètent les uns pour les autres. Et c'est le seul cas de figure pour lequel le Seigneur te permet d'avoir, on va dire, un semblant d'inquiétude, parce que ça ne doit pas être une inquiétude destructrice. Le Seigneur, il est en train de dire, ne te mets en peine de rien. Si tu as envie de te mettre un petit peu en peine pour quelque chose ou quelqu'un, mets-toi en peine pour tes frères et sœurs. Et là, vous dites tous, Amen. C'est QFD. De tous vos soucis, passe en grec, chaque, n'importe quel. Ici, l'apôtre Pierre, il est en train de dire, peu importe ce qui se présente, tu le jettes sur Jésus, n'importe quel souci, tu le jettes sur lui, n'importe quel. C'est vraiment, dans l'idée, c'est la tolérance zéro, parce que tout ce qui, frères et sœurs, tout ce qui est un petit souci aujourd'hui, qui n'est pas déchargé, qu'est-ce qui vous dit que demain ce ne sera pas une énorme inquiétude ? Et ensuite une anxiété, un stress, et ensuite une angoisse. Tout ce qui n'est pas traité, tout ce qui n'est pas déchargé sur le Seigneur, potentiellement, est un danger pour ton âme. Donc, Pierre te dit, si l'inquiétude vient frapper à la porte de ton cœur, tu me jettes ça tout de suite sur le Seigneur. Peu importe ce qui vient frapper, tolérance zéro. Je rappelle, Dieu veut que ton âme soit libre, qu'elle soit légère et qu'elle soit en repos. Je dis une bêtise. Dans le psaume 116, je n'ai pas mis la référence. Ce n'est pas David qui a écrit le psaume 116, c'est un auteur inconnu. Dans le psaume 116, je vous l'ai cité dimanche, « Mon âme retourne » et littéralement « chouve » en hébreu. « Retourne », c'est-à-dire « sois restauré dans ton repos ». Parce que la réalité, c'est que mon âme vit dans la paix, dans la quiétude, dans la tranquillité, la paix surnaturelle de Christ qui dépasse toutes les circonstances qui sont devant moi. Et lorsqu'il y a une inquiétude, mon âme, ayant jeté cela sur son Sauveur, va pouvoir retourner à son repos. Et mon âme, elle est rétablie, elle est restaurée dans son repos. Mon âme, je raffole de ce texte. Psaume 116, là, je n'ai pas mis la référence. Notez, psaume 116, vous vérifierez de mémoire, c'est le verset 4 ou 7, mais c'est au début. Mon âme, retourne à ton repos, sois restauré dans ton repos. 7, merci beaucoup. Psaume 116, 7, et si je ne me suis pas trompé, auteur inconnu. Une façon, pourquoi Pierre insiste là-dessus? Parce que c'est une façon de protéger non seulement notre âme, donc protéger sa qualité de vie, mais aussi de protéger notre propre corps. Le psychosomatique, frères et sœurs, c'est une réalité. Nous sommes, je vous l'ai expliqué dans la série « Il restaure mon âme », nous sommes des êtres tripartites. Nous sommes à l'image de Dieu. Nous avons un esprit régénéré, né de nouveau par le Saint-Esprit et par la parole. Avec notre esprit, nous sommes en communion avec le Saint-Esprit. Nous avons une âme par laquelle nous avons conscience de nous-mêmes, conscience des autres âmes. C'est le miracle de Genèse, chapitre 2, verset 7. Le roi a soufflé et Adam devient une âme vivante. Nous avons donc une âme et puis nous avons un corps. Mais là, à l'intérieur de ce corps, de cette carcasse que nous voyons, ce corps périssable, mais c'est là, à l'intérieur, que se trouve l'esprit et l'âme. Ok ? Mon âme est là, à l'intérieur. Prenez l'exemple d'une marmite. Je prends une marmite, je la remplis d'eau, je la mets sur le feu de l'épreuve, le feu de l'inquiétude, le feu du tourment, le feu du souci, ce que vous voulez. Je mets la marmite, mon corps, l'eau à l'intérieur, c'est mon âme, et je mets mon corps, mon âme, l'eau à l'intérieur, je la mets sur la marmite, je la mets sur le feu. Et là, je ferme le caquelon et je laisse le gaz. Ou la plaque à induction pour ceux qui sont plus branchés que moi, qui sont plus modernes. Et là, vous laissez chauffer. Je vous garantis qu'au bout d'un moment, ce qui va se passer, c'est que le couvercle, la pression à l'intérieur va être tellement forte que le couvercle va commencer à faire ça. Ça, c'est une image pour définir ce qui, frères et sœurs, en nous, est psychosomatique. Psycho, psyché, psouché en grec, l'âme qui, à l'intérieur, est tellement oppressée, torturée, angoissée, malmenée, inquiète, non déchargée, etc., etc., agitée, l'âme agitée. Et d'être comme ça à l'intérieur, au bout d'un moment, bien-aimé, notre corps, il n'en peut plus. Et il dit stop. Et la notion de psychosomatique, ce n'est pas seulement pour les psychiatres, les psychanalystes, ce n'est pas pour les dingos. C'est une réalité pour des gens qui sont tout à fait normaux, mais qui ont tellement de pression à l'intérieur qu'ils vont se déclencher, vérifier sur les sites médicaux, demander à votre propre médecin. Le psychosomatique, j'ai vu des gens se déclencher, pour un choc émotionnel, se déclencher un cancer, se déclencher un eczéma, se déclencher un urticaire, des problèmes d'intestin, des problèmes d'arthrite, demandez à votre médecin. Il y a des tas de cas de choses corporelles. Alors, ça ne veut pas dire que les gens qui ont fait, je ne sais pas, un eczéma, nécessairement, avec... non, pas nécessairement, ça ne marche pas dans les deux sens, on est d'accord. Mais c'est possible que lorsque l'âme est tellement mal, qu'au bout d'un moment, avec l'accumulation, ça ne vient pas du jour au lendemain, mais ça vient doucement, mais sûrement. Et au bout d'un moment, l'âme, elle n'en peut plus. Le corps, il n'en peut plus parce que le contenant ne supporte plus la pression qu'il y a à l'intérieur. Et il faut que ça sorte et ça fait une irruption. Et c'est comme ça que vous avez des gens qui se déclenchent des douleurs d'intestin, des eczémas, des urticaires, etc., etc. Et le Seigneur me dit, un cœur joyeux est un bon remède. Le Seigneur, il sait comment nous fonctionnons, esprit, âme et corps. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. C'est-à-dire que là, le texte de Proverbe 17 montre clairement qu'il y a un lien étroit entre la qualité de vie de mon être intérieur et la qualité de mon corps. Ça va ? Le Seigneur a vraiment tout prévu, parce que quand il veut que mon âme soit paisible, qu'elle soit sereine, qu'elle soit bien, qu'elle soit joyeuse, qu'elle soit tranquille, le Seigneur sait aussi que ça va avoir une conséquence à terme sur mon propre corps. On est drôlement bien fait, hein ? Et quand on comprend tout ça, chaque souci, chaque fois qu'on dit « Oui, mais c'est pas si grave. » Tu sais, j'en ai vu d'autres. J'ai traversé d'autres choses. Ça, comparé à ce que, en telle année, on avait traversé ça. Hein, chérie, tu te souviens ? Ça, c'est rien. Tout ce qui n'est pas déchargé au pied du Seigneur, tôt ou tard, peut devenir fatal. Dieu veut que mon âme soit dans le repos à 100% et dans le repos tout le temps. C'est ce qu'il veut pour toi, c'est ce qu'il veut pour moi. Et quand elle est chargée, je vous le dis, ça ne doit pas durer. Se décharger, c'est une façon de protéger notre âme. Se décharger, je termine avec ça, ou presque. Chaque fois que je dis que je termine, vous savez que c'est la pré-conclusion, il y aura une conclusion après. Hein. Vous me connaissez maintenant. Une âme chargée, c'est dangereux aussi parce que ça peut vraiment me faire dérailler sous le poids, on part du mauvais côté. Et quand l'âme est chargée, ça nous empêche d'avancer spirituellement parlant. On stagne. J'ai fait une expérience un jour, j'étais dans la famille du côté de Grenoble, il y a un bon moment déjà, avec mon fils. Un peu plus petit. Et puis, mon beau-frère, il nous dit, oh, allez, je vais vous montrer Grenoble depuis les hauteurs, je vais vous emmener sur un spot, vous allez voir, c'est magnifique, effectivement, c'était vraiment magnifique. Et puis, on avait juste pris les sacs à dos, on était partis de bon matin, c'était l'été, et puis on avait pris, bon, j'avais prévu de voyager léger, j'avais pas mis lourd, hein, quoi. Puis on marche, puis on commence à monter, voilà. Puis au bout d'un moment, mon beau-frère, il m'arrête, puis il me dit, maintenant, donne-moi ton sac. Je lui dis, pourquoi tu veux mon sac ? Il me dit, regarde, ce qu'on va monter là, même avec ça, sur le dos, tu n'y arriveras pas. Je lui dis, mais si, c'est rien. Il y a une bouteille d'eau, le sac, il doit faire 300 grammes, la bouteille d'eau, 1 kg, 1,5 kg, un sandwich et 3 bricoles, un t-shirt de rechange. Je lui dis, c'est rien, ça va, t'inquiète. Tu ne crois pas que tu exagères un petit peu ? Il me dit, tu vas voir, tu n'arriveras pas en haut avec ça sur le dos. Donne-moi ton sac. C'est bon, ouais. J'ai 40 ans, je suis en pleine forme. Ça, c'est rien du tout pour moi. Il me dit, ok, c'est bon, on va y aller. Et là, je commence à monter. J'ai l'impression que je fais des mètres et des mètres. En réalité, je fais des millimètres. Je mets toutes mes forces dans la bataille. Puis dans ces moments-là, on n'a pas un petit peu d'ego aussi qui nous dit, hé hey, oh, t'es quand même capable d'y arriver, hein. T'es pas le genre, dans la famille, on n'est quand même pas des lopettes. Hein. Alors j'y vais, et puis tu vois, il me regarde, il me fait, alors, tu me donnes ton sac, oui ou non ? Je dis, ouais, s'il te plaît, prends-le, j'en peux plus. Même 2 kilos, je ne pouvais plus les porter. Et ça m'a marqué spirituellement, j'ai gardé cette image toute ma vie. Vous savez, frères et sœurs, la vie avec Dieu, c'est pas la croisière s'amuse. La vie avec Dieu, c'est une ascension. Si vous voulez monter dans la vie avec Dieu, si vous voulez intérieurement que votre âme prenne de l'altitude avec Dieu, il va vraiment falloir apprendre à voyager léger. Mais alors, très léger. Et plus on, c'est le principe, plus on veut monter avec Dieu, plus il va falloir se décharger jusqu'à un moment dire, ah, Seigneur, oh là là, je me suis réveillé ce matin, flat, j'ai un truc qui est arrivé, oh là là, Seigneur. Je ne démarre pas cette journée sans avoir déchargé ce qui était là au réveil, parce que si je vis avec ça, ça va avoir des conséquences derrière. Et là, l'apôtre Pierre amène quelque chose aussi d'extraordinaire. Quand il dit « soyez sobre », je vous ai dit, la sobriété, à ce moment-là, ce n'est pas par rapport au vin ou à l'alcool. La sobriété, oui, certes, ça signifie savoir être, équilibré en toute chose, avoir de la modération, être vigilant, ne pas avoir de passion qui pourrait nous détruire, etc. Mais ce n'est pas que ça. L'apôtre Pierre dit ici, népho en grec, être calme et concentré en esprit. Mon frère, ma sœur, si ton âme n'est pas calme devant Dieu, si de façon générale, la vie de ton âme n'est pas calme, tu es une proie facile pour l'ennemi. Soyez calme et concentré en esprit, parce que vous avez un adversaire, le diable, qui rôde et qui cherchera qui il va dévorer. Et comment il peut faire ça ? À cause de tous les moments où mon âme, ne l'ayant pas déchargée, je n'étais pas calme et concentré en esprit. Je termine vraiment avec ça avant qu'on puisse prier le Seigneur et que chacun puisse aussi parler à Dieu, et peut-être aussi on va avoir un moment de prière peut-être un peu plus particulier si certains veulent qu'on prie ensemble. C'est aussi prometteur, c'est aussi une excellente excellente nouvelle. Non seulement c'est salutaire, mais en plus c'est prometteur. Déchargez-vous, jetez sur Jésus la moindre inquiétude, parce que, Pierre rajoute, parce que lui-même prend soin de vous. Et dans le fait, frères et sœurs, de se décharger sur Jésus, de jeter sur lui, il y a un acte de foi. C'est de saisir une bonne nouvelle, de dire, Seigneur, ce que je jette sur toi, tu vas t'en occuper, Seigneur. Tu vas t'en occuper en réalité tellement mieux que moi. Ce qui est formidable avec le Seigneur, c'est qu'il ne délègue pas ce qu'on lui confie. Il va le gérer lui-même, il va le gérer personnellement pour toi. Il y a un proverbe complètement bidon dans ce monde qui dit qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Eh bien moi je dis, on n'est jamais mieux servi que par Jésus. Amen. Et c'est pour ça qu'il y a derrière cette espérance, et puis ça nous donne aussi de l'assurance, ça nous encourage à vraiment le faire, parce qu'on sait que derrière le Seigneur, lui, c'est lui qui va gérer la situation. Et moi, je vais faire attention. Je vais faire attention à ce que je vais dire. Je vais faire attention à ce que je vais faire. Parce que j'ai tout jeté sur Jésus et il m'a dit, ce que tu as jeté sur moi, je vais m'en occuper moi-même mieux que toi. Seulement, moi, je ne veux pas être une entrave. Je ne veux pas bloquer. Je ne veux pas ralentir son action. Je veux faire attention à ce que je vais dire, à ce que je vais faire. Parce que combien de fois, plus j'avance, frères et sœurs, dans la vie chrétienne, parce qu'avant d'être pasteur, je suis chrétien, et plus j'avance dans le ministère, plus je me dis, Seigneur, je te prie, Seigneur, mon recours, c'est la prière. Seigneur, c'est toi. Seigneur, merci, c'est une telle grâce que tu m'aies pris à ton service. Je voudrais juste faire en sorte, Seigneur, de ne pas trop te déranger dans ce que tu fais. Je ne voudrais pas ralentir ton œuvre. Je ne voudrais pas te mettre de bâton dans les roues. Je ne voudrais pas... Vous savez, frères et sœurs, ce n'est pas méchant ce que je vous dis. Hein. Je termine vraiment. On peut, par des paroles ou par des actions, initiées par une âme agitée, on peut, par des paroles ou par des actions, casser en quelques secondes, en quelques minutes, des heures de ce que nous avons pu construire dans la prière. Des heures de prière peuvent être cassées. Alors si tu as dit au Seigneur, Seigneur, je jette ça sur toi, tu ne t'en mêles plus. Ça, ce n'est pas dans la Bible, mais ce n'est pas faux. Il paraît que donner, c'est donner, et que reprendre, c'est voler. Mais ça, ce n'est pas dans la Bible, vous avez compris. Lâcher prise, laisser entre les mains du Seigneur, ne pas reprendre ce qu'on lui a donné. Soyez calme et concentrez en esprit. Parce que vous avez un adversaire qui n'a plus aucun pouvoir sur vous, si ce n'est que celui que vous lui laisserez, si vous écoutez ses mensonges, ou si vous cédez à ses pièges d'inquiétude. Et c'est comme ça qu'il vous aura. Mais si vous déchargez, c'est ça la solution, si vous déchargez, si vous jetez tout sur Jésus, vous êtes invincible. Et votre âme, elle reste dans la paix, dans la bénédiction, dans le repos. Et on verra encore dans d'autres aspects, dans les semaines qui viennent, d'autres aspects de la vie de l'âme, grâce à ce merveilleux moyen qu'est la prière. Amen.